dans 2 Corinthiens 12, Paul parle de se vanter, de s'enorgueillir, et au milieu de ce développement, il nous dit ça. Il dit ça aux Corinthiens. Et pour que je ne sois pas rempli d'orgueil à cause de ces révélations extraordinaires, j'ai reçu une écharde dans le corps, un ange de Satan pour me frapper et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Aussi, je me montrerai bien plus volontiers fier de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les insultes, dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. J'ai été fou en me vantant ainsi, mais vous m'y avez contraint. Voilà ce que Paul dit aux Corinthiens. L'apôtre Paul parle de se vanter. Les Corinthiens se vantaient de leurs qualités, et on va faire un petit sondage là. Qui parmi vous s'est déjà vanté de quelque chose? Levez la main. Ah oui. Moi aussi, ça m'est déjà arrivé d'être fier de quelque chose, de vouloir montrer aux autres comment je suis fort. Autre question. Qui parmi vous, depuis qu'il est un adulte, a déjà fait l'expérience d'être complètement vulnérable, complètement dépendant d'une autre personne? Levez la main. Ah oui, presque tout le monde aussi. Et moi aussi. Et l'apôtre Paul aussi. Et lui, en plus, il se vante de ça. Alors, moi, perso, je suis pas trop fier de mes faiblesses, mais comme Paul, j'ai fait l'expérience qu'à travers elle, la puissance du Christ s'est manifestée dans ma vie. Et aujourd'hui, Thierry et Clarissa m'ont demandé de venir parler un petit peu de ça. Alors, je vais vous raconter quelques éléments de mon vécu. Ça va pas être exactement une prédication textuelle, mais on va faire des liens avec la parole de Dieu aussi. Il y a 8 ans de ça, j'étais plus jeune, j'avais plus de cheveux sur la tête, ma santé s'est subitement détériorée. Je suis devenu électrosensible. Ça veut dire allergique ou intolérant à tout ce qui est électromagnétique. Le Wi-Fi, le micro-ondes, l'électricité, les champs magnétiques, etc. Tout ça, si je m'y expose d'un petit peu trop près, ça me fait tourner la tête, ça me donne mal à la tête, je perds la capacité de me concentrer. Et la nuit, c'est encore pire. J'ai besoin de dormir dans un lieu particulièrement protégé. Alors évidemment, dans le monde dans lequel on vit, c'est assez handicapant, et surtout, c'est complètement invisible. Alors, je sais qu'on pourrait discuter de diagnostic exact, je sais qu'il y a des controverses à ce sujet, mais voilà, les symptômes, la souffrance, ça c'est bien réel, c'est bien présent, et c'est de ça que je veux parler. Alors avant ça, je fais un bond en arrière. Comme jeune adulte, j'ai pas mal déménagé. Pendant 10 ans, j'ai déménagé une fois par année, là où je trouvais du travail. Puis dans un de mes appartements à Fribourg, tout à coup ça s'est mal passé. J'ai vu ma santé dégringoler. Alors la médecine m'a aidé d'aucun secours. Les prières de guérison, non plus. Mais je vous encourage quand même à aller chez le médecin et je vous encourage quand même à prier pour la guérison. Jusqu'au point où j'ai fait le lien avec l'appartement et puis je me suis dit, je vais essayer d'aller dormir ailleurs, voir comment ça se passe. J'ai été dormir dans une auberge de jeunesse qui avait des gros murs médiévaux avec des chambres bien enterrées comme ça, et là tout à coup ça allait beaucoup mieux. Et pour moi le constat c'était clair, je ne pouvais plus dormir dans cet appartement. Mais où aller? Alors la solution de l'auberge de jeunesse, ce n'était pas vraiment une solution, parce que 2 jours plus tard, elle a fermé définitivement. Et là, il s'est passé un truc un peu curieux, en tout cas dans ma tête, parce que j'avais de l'argent. Mais l'argent, en fait, ne servait à rien. Parce qu'il y a de l'électricité, des ondes partout, surtout dans les hôtels. Puis j'avais des amis, bien des amis, mais les amis ne servaient à rien non plus, pour la même raison. Pour la première fois, j'ai fait l'expérience d'avoir quelques affaires dans une valise et puis de pas savoir où j'allais passer la nuit, ni celle-là, ni les suivantes. Le futur était assez flou. J'ai, en quelque sorte, découvert ce que ça faisait de se retrouver tout à coup sans domicile fixe. Et c'est pas cool du tout. Bon, heureusement, le Seigneur a pourvu. J'ai jamais eu besoin de dormir dans la rue. Mais je me suis retrouvé face à un choix. Est-ce que j'arrête tout, puis je vais vivre dans un chalet à la montagne, isolé, loin de tout avec les toilettes au bout du jardin? Ou bien est-ce que j'essaie de me battre et puis de continuer? Je venais de recommencer des études en théologie dans le but de me lancer vraiment à fond pour Dieu et j'ai choisi de rester et de me battre. Alors aujourd'hui, ma santé, elle ne va pas mieux. Mais j'ai appris à la comprendre et puis à composer avec. Et puis, je peux mener une vie qui a l'air tout à fait normale à quelques petits détails près. Par exemple, j'ai un micro qui est un câble. Je suis plus confortable avec ça. Et un de ces détails, c'est aussi, quand je dois déménager, j'ai aucun moyen de savoir en avance si ma nouvelle chambre me permettra d'avoir un sommeil réparateur ou non. C'est une loterie un petit peu chère. Hein. Pour pouvoir tester un appartement, vous imaginez bien, il faut d'abord signer un bail. Donc, l'habitat, c'est un domaine où je sais que je suis complètement dépendant de la grâce de Dieu. Quand on doit déménager avec ma femme, ça nous est arrivé quelques fois, quand on sert à l'armée du salut, c'est des choses qui arrivent. Quand on doit déménager, notre seule chance de réussir pour que ça se passe bien, c'est de nous poser devant Dieu, lui remettre notre incapacité, lui faire confiance, l'écouter, lui obéir, lui faire confiance encore, même quand ça paraît surprenant. Bien des fois, ça nous a paru surprenant. Mais vous savez quoi? J'ai jamais aussi bien habité que depuis que je suis électrosensible. On a habité à Renan, on avait un appartement du poste avec un bout de jardin dans le centre-ville. À Bienne, on avait un appartement énorme, superbe, au cœur de la vieille ville. À Sierre, on habite dans une villa avec un jardin qu'on loue pour une bouchée de pain. Dans ce domaine, on fait vraiment l'expérience d'un Dieu qui pourvoit avec générosité quand on lui fait entièrement confiance. Bon, alors évidemment, on a dû se retrousser les manches, c'est pas tout tombé du ciel tout seul. On a dû être actif, mais c'est Dieu qui a fait le job principal. Et de manière générale, dans ma vie et dans mon ministère, je ne l'ai pas dit, mais je travaille à Sierre comme collaborateur au poste, je remarque que lorsque je me sens le plus dépendant de Dieu, parce que je sais que moi-même ça ne va pas le faire, lorsque je me sens le plus dépendant de Dieu et que je recherche vraiment le secours de Dieu, c'est souvent dans ces moments-là où je vois Dieu qui fait des miracles. Moi, je ne comprends pas trop, mais je suis bien content de voir la main de Dieu qui agit avec puissance. Quand je prêche, j'ai une petite question comme ça, je vais afficher une petite... Enfin, merci, mademoiselle, d'afficher une petite question. J'aimerais vous interpeller. Et vous, est-ce qu'il y a des domaines dans vos vies, des domaines dans vos activités où vous vous voyez complètement dépendant de Dieu? C'est des domaines comme ça, une partie de la vie. Ça peut être relationnel, ça peut être une partie du temps, ça peut être plein de choses. Les questions, elles vont rester affichées là. Mais je continue. J'aimerais revenir un peu sur le texte biblique. Dieu a dit à l'apôtre Paul, « Ma grâce te suffit, car... »
« Ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. »
« Amen. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Bien. Je connais bien ce verset. J'ai pas pu m'empêcher, j'ai été guigné en grec, en langue originale, et j'ai vu deux choses très intéressantes qui ressortent. Le mot utilisé pour puissance, ce même mot dans les évangiles synoptiques, c'est le mot qui est utilisé pour parler des miracles de Jésus. Quand Jésus fait un miracle, ben il fait une puissance. La puissance s'accomplit dans la faiblesse. Puis le verbe accomplir, il contient l'idée de faire jusqu'au bout, de terminer quelque chose en l'ayant fait complètement. Quand je suis faible, c'est là que je suis le plus susceptible de laisser plus de place à Dieu pour accomplir ses miracles. Et surtout, je suis plus susceptible de lui laisser assez de place pour qu'il accomplisse son miracle jusqu'au bout. Et dans ma vie, j'ai découvert un Dieu qui aime ça et qui honore ça. Alors, qu'est-ce que je veux dire par jusqu'au bout? On va faire un petit exercice d'imagination. Imaginez, on se trouve lors de la multiplication des pains. Je suis un disciple. J'ai reçu une grande corbeille de pain dupliqué. C'est merveilleux, miracle, miracle. Hein, j'ai des pains dans ma corbeille. Comme je suis pas con, je sais compter. Hein, j'ai mon groupe de mangeurs. Je vais rationner le contenu de ma corbeille pour qu'il y en ait pour tout le monde. Résultat, il y en a pour tout le monde. Alors les gens ont encore un petit peu faim, ok, mais il reste rien. Et là, je me dis, ah, j'ai quand même super bien géré le miracle de Dieu. Je suis fort. Je crois que l'histoire de la multiplication du pain se termine un peu autrement. C'est comment déjà que ça se termine? Il reste combien de restes? 12 corbeilles. Et il reste beaucoup. Beaucoup. Les disciples laissent le miracle être accompli entièrement. Jusqu'à la fin. Il n'y a pas un moment où ils se disent « C'est bon, maintenant je gère, Dieu t'a fait ta part, à moi. » Parfois, nous, chrétiens, on se croit fort. On se croit fort et on se repose sur nos capacités, sur notre intelligence, sur notre infrastructure, sur notre belle infrastructure. Et puis, on est confiant que ça va marcher, parce qu'on se connaît, non? Et ce faisant, on donne à Dieu un second rôle dans sa propre Église. Et nos super programmes, super bien faits, eh ben, soit ils ne marchent pas, soit ils sont stériles. Le programme se passe bien, mais ils ne portent pas de fruits. Puis on se demande pourquoi. En tout cas, moi, ça m'est déjà arrivé. Et une réponse que j'ai trouvée, c'est parce qu'on a oublié de mettre Dieu au centre. Alors, mettre Dieu au centre, c'est, enfin, je veux dire, pas juste avec des mots, pas juste avec une jolie prière au début de l'activité. On va dire, voilà, on a mis Dieu au centre, puis après, on le laisse là dans la prière, puis là, on va faire l'activité. Mettre Dieu au centre de nos activités, au centre de nos cœurs, savoir au plus profond de nous-mêmes, savoir viscéralement, dans nos tripes, que nous avons fondamentalement besoin de Dieu. Que Dieu soit présent, que Dieu agisse. Dieu, c'est lui qui est l'acteur principal. C'est nous qui jouons les seconds rôles dans cette comédie qu'est l'Église, j'ai envie de dire, dans le royaume de Dieu. Et c'est nous qui jouons les seconds rôles et tout ce que je fais, ça devrait être directement impacté par le fait de savoir ça. Je fais confiance à l'acteur principal et je n'essaye pas de prendre sa place. Et je vous avoue, pour moi, c'est quelque chose qui est particulièrement difficile dans les domaines où je me sens fort. C'est bon, Dieu, je sais faire ça, je gère. J'ai prié ce matin, c'est bon. Eh ben non. Eh ben non, parce que quand je fais ça, je laisse Dieu un second rôle, puis je prends le premier rôle. Il y a une question que j'aimerais vous poser, qui va être affichée, c'est quel rôle est-ce que vous donnez à Dieu dans votre vie? Quel rôle est-ce que vous donnez à Dieu dans votre travail, dans vos activités? Et surtout, quel rôle est-ce que vous donnez à Dieu dans ce que vous faites pour Dieu? Notre Dieu, il fait des miracles si on le laisse faire. Et en me relisant ce matin, je pensais encore à Jésus qui dit « Je suis le cep ». Qu'est-ce qu'il dit après avoir dit « Je suis le cep » Il dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Quel rôle est-ce que je donne à Dieu dans ma vie, dans ce que je fais? Je continue, les questions restent affichées. Vous avez certainement déjà entendu cette phrase, hein, « Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts ». Est-ce que vous savez où ça se trouve dans la Bible? C'est pas dans la Bible. Non, c'est pas dans la Bible. C'est parfaitement exact, c'est pas dans la Bible. C'est pas dans la Bible parce que cette affirmation, elle est inexacte. J'ai appris que ça n'est pas en grande partie de nous. Il y a des souffrances que je me suis contenté de subir. Voilà, pendant plusieurs mois, j'ai fait le dos rond, j'ai essayé de survivre à mon nouvel handicap sans vraiment me prendre en main. Et ça ne m'a pas rendu plus fort, ça m'a rendu plus fragile, ça m'a rendu plus fatigué. Ce qui m'a rendu plus fort, entre guillemets, c'est quand j'ai décidé de progresser, de m'appuyer sur Dieu pour ça. Et quand bien même mon état de santé ne s'est pas amélioré, j'ai progressé. Je me demande qu'est-ce qu'on fait avec nos faiblesses. Pour parler de ça, je vais vous parler d'un autre domaine de ma vie où je suis faible. C'est cool, aujourd'hui je parle de comment je suis faible. J'aime bien ça. Un domaine où je suis faible, c'est la gestion de mes émotions. En fait, pendant longtemps, mon aveuglement et mon ignorance étaient tellement grands que je pensais que c'était un domaine où j'étais fort. Vous vous rendez compte. Le Seigneur a eu besoin de me tordre le bras pour me montrer que ce n'était pas le cas. Et petit à petit, j'ai découvert combien mon cœur était pauvre. Et ça m'a permis de progresser aussi. J'ai cherché à m'équiper, à mieux connaître la psychologie humaine, pour mieux connaître ma psychologie aussi. Découvrir l'empathie qui vient du cœur. Et avec tout ça, progressivement, j'ai acquis des nouvelles compétences qui me sont très utiles à moi et qui sont très utiles à Dieu, que Dieu utilise aussi à travers moi, à travers mon ministère. Alors, je ne suis pas devenu un champion des émotions, hein, loin de s'en faut, mais peut-être juste un peu moins aveugle. Et en fait, c'est un peu le principe de la repentance. La repentance avec l'aide de Dieu, je vais regarder ce qui bécloque en moi. Puis avec l'aide de Dieu, on va tâcher de retaper ça. Les deux ensemble. Qu'est-ce que je veux faire de mes faiblesses? Là où je me reconnais faible, je peux chercher le secours de Dieu pour y être moins faible, pour y trouver de l'utilité. Et c'est une forme de progrès. Et c'est ma responsabilité. Tout en sachant que sans Dieu, je ne suis rien, que je ne peux rien faire et que c'est lui qui fait le job principal. Une question qui est assez... Super, bravo. Qu'est-ce que tu veux faire avec tes faiblesses? Qu'est-ce que je veux faire avec mes faiblesses? Est-ce que je veux chercher à progresser avec l'aide de Dieu? Alors bien sûr, il y a des faiblesses qui ne guérissent pas, j'en sais quelque chose. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire. Mon électrosensibilité, ma relation aux émotions, ça m'a permis de faire un autre grand apprentissage. Étant faible, je peux comprendre beaucoup mieux les autres, ceux qui sont faibles aussi. Ceux qui n'ont pas la capacité de faire juste ceci ou de faire juste cela. Vous savez, ceux à qui on dit « Allons, c'est facile, pourquoi tu n'y arrives pas? Tu fais exprès ou quoi ?» Non, ben là maintenant je peux les comprendre avec mon cœur, parce que je peux ressentir ce qu'ils vivent. Avant, la faiblesse des autres, je la savais avec la tête comme une réalité sociologique, parce que j'ai étudié la sociologie, et je les regardais avec une espèce de condescendance bienveillante, peut-être un peu paternaliste comme ça. Oh mon pauvre, c'est dur ce que tu vis. Mais maintenant, me sachant faible, je peux entrer vraiment dans ce que vit l'autre. Beaucoup mieux me faire tout à tous. Et vous savez quoi? C'est exactement ce que Dieu fait avec nous aussi. Jean 1, 14, « Celui qui a la parole est devenu homme et il a vécu parmi nous et nous avons contemplé sa gloire. » Jésus-Christ est né pauvre, misérable, au fond d'un garage. Il a connu toutes sortes de souffrances, de tentations. Jésus-Christ s'est fait faible humain pour nous rejoindre au cœur de notre humanité faible. Dieu, il sait exactement ce que c'est, ce que ça fait d'être faible. Il sait exactement comment notre faiblesse et notre vulnérabilité, qu'est-ce que ça fait. Il sait aussi comment notre vulnérabilité nous permet de tendre la main à notre prochain, soit pour chercher de l'aide, soit pour donner de l'aide. C'est quand on se sait faible qu'on peut construire les relations les plus solides. Je crois, j'en suis convaincu. Y compris et surtout notre relation à Dieu. Quand je me sais faible par rapport à Dieu, c'est là où je peux vraiment tendre la main à Dieu. C'est, oui, c'est quand on se sait faible et dépendant de Dieu que ça va le plus, qu'on va pouvoir le mieux renforcer notre foi. Et vous, est-ce que, quand ça vous arrive d'être faible, si ça vous arrive d'être faible, vous arrivez à tendre la main? Est-ce que dans votre vie d'adulte, ça vous est déjà arrivé? Est-ce que vous êtes prêt à saisir la main de Dieu, une fois encore? Surtout là où on est faible. Surtout là où on n'a pas encore essayé de la saisir jusqu'à maintenant. Parce qu'on se dit, ça va le faire. Parce qu'on dit, c'est bon, j'ai bien aimé la planche de bois. Avant, on peut la courber, c'est la résilience. La courbe, et puis après, elle revient à son état normal. Puis on se dit, ah, c'est bon, je suis fort, j'ai de la résilience. Mais au bout d'un moment, ça casse quand même. On a besoin de Dieu. J'ai posé plein de questions, et puis j'aimerais qu'on puisse prendre un moment pour méditer là-dessus. Peut-être on peut même mettre un petit peu de musique pendant ce temps. Un moment pour méditer là-dessus, mais ne le faites pas tout seul. Faites-le avec Dieu. Faites-le avec Dieu ensemble. N'hésitez pas à venir. Alors, je me suis dit qu'il y avait peut-être un banc de la grâce. Je vois pas de banc de la grâce, mais il est dans... Ah oui, il est là. Mais il est aussi dans notre cœur, surtout. Hein. Peu importe le fait qu'il y a un banc ici ou pas. Venez à Dieu, c'est... Venez à Dieu, prenons un temps. Et toi, est-ce qu'il y a des domaines dans ta vie, ou dans tes activités, dans tes situations, où tu te sens complètement dépendant de Dieu? Et puis quel rôle est-ce que tu donnes à Dieu dans ta vie, dans ton travail? Quel rôle tu donnes à Dieu dans ce que tu fais pour Dieu? Et puis qu'est-ce que tu veux faire avec tes faiblesses? Si tu veux les garder, rester comme ça, ou est-ce que tu veux chercher un progrès avec l'aide de Dieu? Jamais sans Dieu. Hein. Puis est-ce que tu tends la main quand tu es faible? Est-ce que tu es prêt à saisir la main de Dieu? Est-ce que tu l'as déjà fait? Est-ce que tu veux le refaire encore? Parce que c'est quelque chose qu'on peut faire et refaire autant que nécessaire. Prenons un moment avec le Seigneur. Seigneur Jésus, nous voici devant toi. Nous voici faibles, nous voici comme tu nous as créés, humains. Seigneur Jésus, je veux te demander pardon, et peut-être d'autres gens veulent aussi demander pardon pour tous les domaines où je crois que je suis fort et je te laisse de côté. Seigneur Jésus, c'est avec toi qu'on veut marcher. Avec toi et avec toi en te laissant marcher devant et marcher derrière et marcher à côté aussi. Et marcher dessous. Seigneur, c'est avec toi qu'on veut aller. Merci Seigneur parce que tu es un Dieu puissant, un Dieu de miracles, un Dieu qui peut faire des choses incroyables si on te donne la place, si on te laisse faire. Tu es un Dieu qui ne s'impose pas. Seigneur, viens chez nous, viens Saint-Esprit habiter nos cœurs, les cœurs de chacun de nous, viens habiter en particulier tous les endroits où on se sait petit, faible, pauvre. Viens habiter ça, Seigneur. Amen.